en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur Canal Académie, la première radio académique francophone diffusée à travers le monde entier grâce à l'Internet et une adresse www.canalacademie.com. C'est à une séance exceptionnelle que Canal Académie vous convie aujourd'hui et tout au long de cette semaine, la séance solennelle de rentrée des 5 académies qui composent l'Institut de France. Cette rentrée solennelle se tenait en séance publique sous la coupole de l'Institut de France à Paris, Quai Conti, le mardi 26 octobre 2004. Séance solennelle de rentrée sur le thème « Harmonie », une séance placée sous la présidence de M. Étienne-Émile Beaulieu, président de l'Institut de France et président de l'Académie des sciences. Vous pourrez entendre dans l'ordre les orateurs suivants. Tout d'abord, Mme Marianne Bastide-Bruguière, déléguée de l'Académie des sciences morales et politiques, titre de sa communication « Harmonies humaines et célestes ». Deuxième intervenant, M. François-Bernard Mache, délégué de l'Académie des beaux-arts sur le thème du trousseau d'harmonie. S'exprimera ensuite Mme Dominique Meyer, déléguée de l'Académie des sciences, autour de « La nature, leçon d'harmonie ». Vous entendrez également Jean-François Jarige, délégué de l'Académie des inscriptions et belles-lettres sur Harmonie d'Armadao, l'homme face au chaos. Enfin, cette séance solennelle de rentrée des 5 académies se clôturera par l'intervention, la communication de Madame Florence Delay, déléguée de l'Académie française, qui traitera à travers sa communication d'une très vieille convivance. Nous allons tout de suite sous la coupole, sans attendre, écouter dans un premier temps Madame Mariette Bastide-Bruguière, je vous rappelle, déléguée de l'Académie des sciences morales et politiques, le thème de sa communication « Harmonies humaines et célestes ».
Harmonia, reine de Thèbes, est-elle vraiment la figure mythique de l'harmonie ? Son destin tourmenté ne lui a guère réservé de félicité sereine. Les poètes la préfèrent fille d'Aphrodite et d'Arès, sœur d'Eros. D'autres la disent fille de Zeus et d'Électra. Élevée chez le roi de Samothrace, elle fut accordée par celui-ci au prince phénicien Cadmos qui passait dans l'île à la recherche de sa sœur Europe, enlevée par un taureau. Poursuivant une route périlleuse, Cadmos aborda à Delphes. Là, l'oracle enjoignit au prince d'abandonner les traces du taureau pour suivre la course d'une génisse. Le prince fonderait une cité au lieu où s'arrêterait l'animal. Le cœur de la Béotie fut le site désigné où Cadmos éleva la ville de Thèbes et introduisit l'écriture que la Grèce ignorait. 8 années s'écoulèrent encore, durant lesquelles Cadmos expia au service d'Arès le meurtre du dragon dévoreur d'hommes, créature de ce dieu qui gardait les abords de la cité future. Enfin, la patiente Harmonia put célébrer ses noces. Noces exemplaires, modèle accompli de l'union conjugale. Tous les dieux accoururent, oubliant leurs querelles. Les muses et les grâces chantèrent l'épithalame, dont le refrain, Opticalon, Philonesti, le beau est aimable, a traversé les siècles. Harmonia reçut de son époux, des dieux eux-mêmes, un vêtement, le péplos de la femme mariée, et un superbe collier d'or ciselé par Héphaïstos, bijou funeste pourtant, dont la possession ensanglantait les familles. Le drame n'épargna point la malheureuse Harmonia. Son petit-fils Actéon fut dévoré par ses chiens pour avoir aperçu Artémis nue au bain. Sa fille s'est mêlée, courtisée par Zeus, périt foudroyée. Euripide nous a peint dans les Bacchantes comment Dionysos, le fruit des amours de ses mêlées, châtia atrocement le refus de ses tantes et de son cousin Panthée d'admettre sa divinité et son culte. Zeus prit finalement pitié d'Harmonia et Cadmos. Pour les soustraire à l'horreur, il les transforma en serpents. Conduits sur un char en Illyrie, ils y fondèrent d'autres villes, qui attaquèrent le sanctuaire de Delphes. Pausanias rapporte que le tombeau des deux époux se trouvait près de l'actuelle Pola, en Istrie. Le mythe et les poètes n'ont point tracé au burin le caractère ni les passions d'Harmonia. Elle avait des yeux de vache, dit Pindare, c'est-à-dire fort beau au goût des Grecs. Ovide la peint vieillissante et tendre pour son époux. Figure, pour ainsi dire, évanescente au milieu des déchaînements incessants des violences humaines et divines, Harmonia était seulement honorée dans les cultes locaux de la Grèce classique comme la protectrice d'un bien fort humble et peu métaphysique, l'harmonie conjugale. Sa vocation philosophique est à vrai dire tardive. Elle lui fut prêtée par des poètes alexandrins. Leur imagination et celle de bien d'autres jusqu'à nos jours s'est plu à entrelacer mythes et théogonies pour permettre à la reine légendaire d'incarner l'idéal d'un ordre universel heureux dont la sagesse antique avait déjà conçu la pensée et nommait Harmonie comme l'œuvre d'un artisan qui assemble, harmozein en grec, qui ajuste des pièces diverses pour créer un objet d'art ou une machine. Était-ce pour la fille d'Aphrodite pure récompense d'avoir pris soin de son mari parce qu'il serait si rare qu'une femme soit bonne épouse? Ou l'intention des poètes ne fut-elle pas plutôt de reconnaître en la félicité conjugale, accord parfait de deux créatures différentes, une figure vécue de cette unité de l'être et de la diversité du sensible que l'esprit humain se plaît à déchiffrer ou inventer dans le monde autour de lui? L'idée homonyme à laquelle Harmonia a prêté ainsi son ascendance divine et donc une puissance céleste est celle d'une articulation parfaite, d'un accord équilibré qui lie entre elles et unit en un tout l'ensemble des réalités visibles et invisibles. Pythagore avait découvert dans les nombres l'explication de l'univers et dans la science des nombres l'accès au divin, l'assurance de félicité éternelle que cherchaient mystères et cultes orphiques. Il avait observé en effet que la hauteur du son produit par la vibration d'une corde tendue dépendait de la longueur de la corde. La relation entre les intervalles musicaux de l'octave, de la quinte ou de la quarte pouvait être exprimée par les proportions entre les quatre premiers nombres entiers. Les sons étaient mesurables dans l'espace. L'harmonie musicale consistait en un rapport de nombres. Le monde sensible révélait son unité dans les nombres et les rapports de nombres, dont il était la manifestation. La musique en était l'archétype. De là, les pythagoriciens appliquèrent l'harmonie des nombres à la description des mouvements de l'univers. Au livre 10 de la République, Platon nous peint cet étonnant système ordonné et immobile où les sphères des planètes tournent en cercles concentriques. Chacune est surmontée d'une sirène chantant une note unique et différente, dont le concert compose une harmonie parfaite, tandis que les trois parcs règlent le mouvement de l'axe central du mécanisme et le cours des vies humaines. Dans le Timée, cette vision du cosmos s'enrichit du foisonnement inspiré des spéculations platoniciennes. Un démiurge, bon et rationnel, a créé l'univers sensible en modelant le chaos selon ses idées de la perfection et de l'harmonie. Il l'a aussi doté d'une âme, dont tous les éléments de l'univers participent, y compris l'homme, à des degrés divers. L'homme est ainsi partie prenante à l'harmonie du monde. Dès Aristote, la postérité oublia la mathématique compliquée dont Platon accompagnait sa cosmogonie. Mais elle retint la croyance en une harmonie universelle à découvrir dont la musique donnait une clé. Il se dessine cependant dans la notion une dualité entre l'idée de règles d'harmonie très rigoureuses, mathématiques, qui permettent d'atteindre la perfection par la raison et celle d'un sentiment, d'une expérience vécue de l'harmonie qui fait communier avec le divin. Sous l'influence stoïcienne, la médecine hippocratique intégra elle aussi le principe d'harmonie à sa doctrine. Transmise par les Romains, L'harmonie du monde a naturellement enchanté la tradition chrétienne. Séraphins, anges et chérubins remplacèrent sirènes et muses pour faire entendre des accents célestes. L'harmonie du monde était l'œuvre de Dieu. L'homme est enserré dans une harmonie universelle des créatures qui répond à un ordo celestis. Un ordre céleste, assurait le moine irlandais Jean Scott à la suite de Boès. Chez les poètes, laïcs et clercs, un lien nécessaire unit la grâce divine, la nature entière et une harmonie de type musical. Pour eux, l'esprit de grâce s'exprime dans la musique. Le rossignol n'est pas moins artiste que l'homme, n'en déplaise à saint Augustin. Partout où il y a amour et foi, s'entend une musique qui chante la louange de Dieu. L'imagination ancienne, médiévale ou humaniste s'adonne à d'innombrables et subtiles variations sur les substances et esprits qui constituent l'être humain et le dispose à percevoir l'harmonie universelle, tantôt par l'intelligence et la raison, tantôt par l'ascèse, la contemplation et l'extase. Mais l'idée de l'harmonie foncière de la création, de son unité intrinsèque, grâce à laquelle l'homme et la nature forment un tout, les êtres et les choses, liés par une solidarité existentielle, sont à même de s'entendre, cette notion d'une consonance, d'une concordance universelle a imprégné la pensée et la sensibilité européenne de l'Antiquité à l'âge classique et les a hantés encore au-delà. Comme un écho lointain de Maat, le principe d'équilibre qui, dans l'Égypte ancienne, ordonnait les forces de la vie et dictait l'ordre du monde, l'harmonie universelle est un modèle idéal pour toute œuvre humaine. Sine harmonia, nulla pulcritudo. Sans harmonie, point de beauté, disait la théologie du IXe siècle. Le bon gouvernement qu'imaginent Siennois et Florentins du Trecento et Quattrocento vise l'harmonie. La ville de Lübeck inscrit Concordia au fronton de sa porte d'entrée. Reflet de la perfection divine aux yeux européens, l'harmonie universelle a nourri la tradition islamique comme accomplissement de la justice de Dieu. La Concordia Mundi, ainsi que la nomme Marcille Fissin, l'harmonie du monde qui habita l'imagination de l'Europe, chantée par Dante et Milton, est-elle si différente de celle qu'a chérie la Chine ancienne, puis toute l'Asie orientale? Cette harmonie chinoise porte le nom de He, prononcé wa en japonais. Le caractère se compose de la céréale et de la bouche. Ô sagesse profonde, ancrée dans la matière, dira-t-on. Nourrissez le peuple, la bouche pleine, il se taira et se tiendra tranquille. Hélas, aucun dictionnaire n'admet cette étymologie. Tous veulent que l'harmonie est simplement une analogie de son avec la céréale et que la bouche signale cette homophonie. Une philosophe chinoise a proposé récemment une origine gustative. Dans la préparation d'une soupe, on mélange divers éléments et pour obtenir un goût bien équilibré, on ajoute ce qui manque ou l'on enlève ce qui est excessif. Ainsi en est-il de l'harmonie sociale. Si alléchante que soit l'hypothèse, et sans songer à nier les prouesses culinaires précoces de la civilisation chinoise, qui utilise effectivement le mot « re » pour la recette des sauces et ragoûts, il paraît prudent de s'en tenir à l'homophonie. Le terme « re » apparaît dans les inscriptions sur bronze du 8e siècle avant notre ère et dans les classiques. Comme notre mot « harmonie », il signifie l'état de concorde. Il entre aussi dans la composition du terme « heping » qui signifie « paix ». Mais il désigne également la vertu qui permet de créer ou perpétuer l'état d'harmonie, ainsi que l'action d'harmoniser. Dès les inscriptions les plus anciennes, on le trouve appliqué à l'accord des instruments de musique. Dans les classiques, il désigne certains instruments musicaux, le réglage de leurs sons, l'exécution d'œuvres musicales à plusieurs instruments ou le chant en chœur. L'harmonie chinoise est donc, elle aussi, intimement liée à la musique. Elle l'est également à une science des nombres et des rapports de nombres qui mesurent instruments de musique et intervalles musicaux, et les mettent en relation avec le cycle du calendrier et des astres. L'essence de l'harmonie est bien définie au chapitre de l'invariable milieu des mémoires sur les rites. Tant que joie, colère, tristesse ou plaisir ne se sont pas manifestés, cela s'appelle le milieu, c'est-à-dire pure efficacité de l'énergie vitale. Quand ces sentiments naissent, mais restent dans les justes limites, on dit qu'il y a harmonie. Le milieu est le grand fondement de l'univers, et l'harmonie est la voie qu'il doit suivre. Quand le milieu et l'harmonie atteignent partout leur plus haut degré, chaque chose est à sa place au ciel et sur la terre, et tous les êtres naissent et prospèrent. Cette éthique de la modération s'enracine dans un sentiment de l'unité du ciel, de la terre et de l'homme, dans la croyance en l'ordre immanent du cosmos, que l'homme a le devoir de reconnaître, de respecter et de préserver pour être homme. L'ordre cosmique conjugue dans l'espace et le temps une alternance d'aspects contrastés et complémentaires dont le yin et le yang sont la figure originelle. L'intuition semble rejoindre celle de Jean Scott Erigène, est enim harmonia, dissimilium, inae qualium qui rerum adunatio. L'harmonie est en effet la réunion, la mise en un tout de réalités différentes et inégales. Si l'on entre dans le détail du sens et des finalités que Chinois, Japonais et Coréens ont élaborées au cours des siècles à partir de la perception de l'unité du monde, les divergences avec la réflexion européenne paraissent au contraire d'autant plus frappantes que nous avons oublié la pensée du tout qui captiva chez nous tant d'esprits jusqu'à l'âge moderne. Persuadés de la perfection de l'harmonie musicale, image de celle de la nature, les hommes de la Renaissance en appliquèrent les rapports de nombre aux autres arts. Alberti y puise les mesures de l'architecture. On connaît aussi la célèbre figure de l'homo quadratus de Léonard de Vinci. Pourtant, cette image des proportions cosmiques du corps est centrée par rapport au regard de l'artiste ou du spectateur humain. L'harmonie n'est plus pure fusion avec l'ordre de la nature. Kepler a beau exprimer le mouvement des astres par une notation musicale dans l'harmonie Semondi, et Leibniz ériger l'harmonie en principe absolu d'intelligibilité et d'action, Mersenne, par son livre « De l'harmonie universelle » paru en 1636, s'est ingénié à tuer l'âme musicale du monde à coups de mécanique. Une fois le soleil au centre de l'univers, avec des planètes aux cours variables et incertains, l'homme se trouvait seul dans un monde fragmenté, sans commerce naturel avec le ciel. Science, art et nature ne convergeaient plus en une harmonie du monde capable d'exalter l'âme humaine. De ce désenchantement du monde, œuvre des Lumières honnie par le poète Novalis, est née pourtant l'esthétique. Déchue des sphères célestes, l'harmonie y a trouvé abri. Elle a dû vite abandonner encore sa dernière prétention universelle, celle d'unir sous la loi de rigoureuse correspondance couleurs, sons et mots. L'harmonie est devenue une simple construction de l'esprit humain particulière à chaque art. En musique, vous l'entendrez tout à l'heure, elle a le plus longtemps résisté aux assauts, subjuguant même la dissonance. Ailleurs, ces normes mesurables par le calcul ont été promptement récusées parce qu'elles bridaient la force du génie. Même réduites au plaisir subjectif causé par l'ordre et l'équilibre, ces critères paraissaient bien élusifs. Condillac définissait l'harmonie du style par la mélodie, sans l'élucider davantage. L'harmonie semblait surtout un sentiment qui signale le beau, sans rapport nécessaire avec les proportions et la symétrie. Mais le beau était-il l'objet unique de l'art ? Tandis que Chateaubriand plaide pour l'harmonie des contraires, Victor Hugo dénonce la monotonie de la beauté universelle et prône le grotesque et le laid. Malmenée dans les arts, l'harmonie trouve quelque souffle dans l'utopie sociale. Voici les harmonites quittant l'Allemagne pour fonder en 1805 la ville d'Harmonia aux États-Unis. Ils y pratiquent la communauté des biens et une vie selon la nature, rythmée par la musique. 20 ans plus tard, Robert Owen tente une expérience voisine, la communauté de New Harmony dans l'Indiana. L'échec a beau être immédiat, l'économie politique cède encore à l'attrait de l'harmonie en 1854. Les harmonies économiques de Frédéric Bastiat reposent sur l'idée maîtresse que tous les intérêts légitimes sont harmoniques. Mais la voie sociale de l'harmonie, hormis celle des harmonies municipales que vit naître aussi le XIXe siècle, a été vite étouffée par la violence de l'industrialisation, la dialectique de lutte, de compétition ou de révolution. Aujourd'hui, peut-être reste-t-il un souvenir de l'harmonie dans l'esthétique qui nous fait encore juger l'œuvre d'art comme un tout dans sa cohérence. Pourtant, l'idée d'harmonie a déserté la philosophie, comme pour s'ensevelir dans l'orphisme de ses origines à travers les sectes variées, les religions nouvelles, la mouvance du New Age, qui promettent à chacun d'accorder la musique de sa vie à celle des sphères, en cultivant des aptitudes variées de l'esprit ou du corps. Sa destinée en Chine n'est guère plus enviable. Elle prête un refrain aux discours officiels, tel le tic-tac du monstrueux moulin auquel Novalis comparait le monde moderne. Harmonia n'a-t-elle plus rien à nous dire ? Ovide l'appelait parfois Hermione. Ne peut-elle, comme l'Hermione du conte d'hiver de Shakespeare, transformée en statue de pierre, se ranimer sous l'effet d'une musique et nous rappeler que la concorde s'accommode des différences entre les êtres et même les suppose, qu'elle n'est parfaite aussi que lorsqu'elle se prolonge dans un accord entre l'activité humaine et la nature qui l'environne.
Je remercie Madame Marianne Bastide-Bruguière et je donne maintenant la parole à Monsieur François-Bernard Mache, délégué de l'Académie des Beaux-Arts, pour son discours intitulé « Le trousseau d'harmonie ».
Lorsqu'on m'a fait l'honneur de m'inviter à parler devant vous de l'harmonie, il m'était difficile de me dérober sans me rendre suspect de méconnaître ou de rejeter un sujet aussi important pour un musicien. Il n'était pas moins difficile d'éviter des références techniques qui ne signifient rien en dehors des milieux professionnels. J'ai donc accepté cette intéressante mission en me promettant de ne pas évoquer trop précisément les arcanes du code classique régissant les enchaînements d'accords. Puis, rêvant sur cette notion d'enchaînement, je me suis souvenu d'un épisode grassement scandaleux de l'antique chronique olympienne, l'enchaînement d'Arès et d'Aphrodite par l'époux jaloux de cette dernière, Héphaïstos. Soupçonnant l'infidélité de son épouse, il avait posé un piège pour prendre sur le fait le couple adultère, et lorsqu'il vit le filet les emprisonner sur le lit, son tempérament volcanique bien connu l'aurait porté aux dernières violences, mais comme on ne peut immoler des immortels, il se contenta de les tuer par le ridicule, en convoquant l'assemblée des dieux à ce beau spectacle. On sait que chez les Grecs, le rire n'est pas seulement le propre de l'homme, il est aussi l'apanage des dieux. Par ce détour, je suis ramené au thème de ce jour, car harmonie sans article appartient à une légende thébaine. Elle est la conséquence de cet épisode de flagrante délice où Arès et Aphrodite, piégés dans le filet magique d'Héphaïstos, furent soumis, dans une involontaire phanérogamie, au sarcasme des dieux. Harmonie est donc née d'une scandaleuse union entre l'agressivité d'Arès, un Olympien déviant, ou du moins marginal, auquel on ne rendait aucun culte, et le désir d'Aphrodite, divinité plus primordiale que Zeus et toute sa nouvelle équipe de l'Olympe, est hautement célébrée de Chypre à Corinthe. L'union, eh bien, le sens premier de cette figure mythique, la racine de son nom sert encore aujourd'hui en grec à désigner l'ajustement de deux éléments de construction, disons le joli jeu du jointoiement. L'histoire de la musique européenne semble bien illustrer symboliquement cette nature jointive. Tandis que la Grèce appelait harmonie les divers agencements, affinités et hiérarchies des intervalles successifs dans les gammes, nous avons depuis le Moyen-Âge appris peu à peu à désigner ainsi les usages régissant la polyphonie des intervalles simultanés. Les notes se heurtent comme les armes d'Arès ou s'attirent comme sous le charme d'Aphrodite. C'est sans doute cette déesse si sensible qui entraîne irrésistiblement toutes les cadences vers la tonique. Son amant, lui, ne se plaît qu'aux dissonances et aux bruits. Le christianisme a rebaptisé les rôles en attribuant au diable les méfaits d'Arès, tout particulièrement cette carte augmentée qui introduit un si pénible désordre dans certains modes. Les consonances ont à vrai dire toujours le dernier mot, de sorte qu'au bout du compte, le couple illégitime produit une musique plus vivante que ne le ferait l'ennuyeuse éternité d'une consonance sans fin ou le chaos prolongé de pur froissement sonore. Le viol des règles serait peut-être nécessaire pour créer une harmonie, et cet idéal de transgression, loin d'être une invention des temps dits modernes, avait peut-être été déjà revendiqué par le mythe grec comme inhérent à la création artistique. On ne manquera pas de me reprocher l'anachronisme de ces spéculations symboliques. Je ne me réfugierai pas derrière l'harmonie pythagoricienne des sphères, du Timée de Platon ou ses lointains échos déformés chez le bienheureux Boès pour m'en justifier. Les dieux grecs, comme tout grand système symbolique, échappent à l'histoire et à leur culture d'origine et nous renvoient à des forces intrapsychiques toujours actives. Mais ces forces relativement intemporelles nous entraînent dans un mouvement qui, lui, est irrémédiablement historique. S'intéresser à la généalogie d'harmonie, c'est réfléchir en images sur une des forces qui ont fait notre histoire musicale et artistique. L'harmonie a acquis dans notre dernier millénaire un sens particulier et a longtemps été confondue avec la pratique polyphonique elle-même, jusqu'au bref moment historique où l'Europe, s'étant projetée vers des pays lointains, a pris conscience de la relativité de ses concepts et de ses croyances. La polyphonie existe ou a existé dans des cultures qui n'ont pas élaboré de théorie sur les lois d'assemblage des sons qu'elles utilisent. Aujourd'hui, l'harmonie se survit dans les clichés des industries musicales planétaires, mais elle a payé sa mondialisation d'un extrême appauvrissement. Elle n'a conservé d'importants pouvoirs que dans le jazz ou d'autres disciplines traditionnelles d'improvisation. La tradition grecque avait bien vu que, malgré ses origines divines, l'harmonie n'était pas immortelle. Voilà donc le contexte dans lequel je me permettrai de vous rappeler plus en détail la carrière de celle dont le nom fut propre avant de devenir commun. Il est temps de justifier le titre de ce discours et de parler de ce fameux trousseau, origine d'une longue série tragique qui peut-être se perpétue encore aujourd'hui. L'enjeu de départ est la naissance de notre civilisation. Europe, fille du roi de Phénicie et petite fille de l'Afrique, a été enlevée par Zeus déguisé en taureau. Et ses trois frères ont pour mission de la retrouver. L'un d'eux, Cadmos, n'y étant pas parvenu, ne retournera pas en Phénicie. Il inaugurera néanmoins la civilisation européenne en alphabétisant les Béotiens. Mais pour fonder sa ville de Thèbes, dont le site lui a été indiqué par une vache, il a dû tuer le dragon d'Arès, dont les dents ont donné magiquement naissance à une population belliqueuse. Zeus a accordé à Cadmos la main d'harmonie, et le trousseau de noces contient comme pièce principale une robe tissée par Athéna et un merveilleux collier forgé par Héphaïstos lui-même. Certains disent que c'était un réemploi de cadeaux offerts par Zeus à Europe du temps de leur idylle. Toujours est-il que ces cadeaux sont empoisonnés. Athéna et Héphaïstos ne supportent pas Harmonie, une scandaleuse bâtarde parmi les Olympiens. Et du collier va émaner une longue série de catastrophes. Cadmos et Harmonie ont 5 ou 6 enfants, tous marqués par le malheur. Leur petit-fils Actéon est victime d'une sorte d'accident de chasse. Leur fille Ino est saisie de folie bachique, comme sa sœur Agavée et son neveu Panté. Quant à l'autre sœur, Sémélée, elle est foudroyée avant d'avoir mené à terme son enfant Dionysos. Trois générations plus tard, Œdipe, arrière-arrière-petit-fils d'Harmonie, est lui-même promis au sort que l'on connaît. Comment Harmonie a-t-elle pu produire pareille descendance? La malédiction est dans le trousseau. Le scénario se répète d'une génération à l'autre. La beauté divine du collier suscite de telles convoitises qu'il entraîne dissensions, calomnies, meurtres et trahisons. C'est à cause de lui qu'échoue la première expédition des Sept contre Thèbes ou que les fils d'Œdipe s'entretuent. On crut en avoir fini avec la malédiction lorsque les enfants d'Alcméon allèrent déposer le trousseau dans le sanctuaire de Delphes, où on put l'admirer pendant des siècles. Mais en 352, sous le règne de Philippe de Macédoine, les troubles de la guerre sacrée ont conduit Phylos, un des chefs phocidiens, à commettre un imprudent sacrilège. Il s'est emparé du collier pour l'offrir à sa maîtresse. Celle-ci en a orné son enfant, qui est devenu fou, a mis le feu à la maison et a causé dans l'incendie la mort de l'imprudente. La trace du collier a depuis lors été perdue. Mais nous sommes peut-être en mesure de faire, sinon de véritables révélations, du moins quelques hypothèses. L'irrésistible attrait de cette production qui ornait Europe puis Harmonie est intimement lié à la violence initiale qui l'a fait créer. Tout se passe comme si, se substituant à l'image d'une Europe introuvable depuis son rapt par l'esprit en personne, la postérité de l'asiatique Cadmos devait répéter à l'infini une erreur féconde mais fatale. Notre histoire esthétique, et musicale en particulier, n'a pas attendu le XXe siècle pour voir l'harmonie comme produit d'une union jusqu'alors illicite de l'agressivité et du désir. L'esprit d'exploration et de conquête lié à l'espoir d'une fécondité nouvelle est au cœur de ce que l'Europe a créé. La modernité, comme remise en cause permanente des règles de l'art qui assurerait une tranquillité olympienne, mais ennuyeuse, lui est essentielle. On fait souvent grief à Jean-Jacques Rousseau d'avoir naïvement dénoncé les artifices de l'harmonie pour prôner une utopique linéarité mélodique. Mais ce que la polyphonie européenne a de particulier parmi toutes les polyphonies traditionnelles est bien cette maîtrise problématique de plusieurs temporalités sonores simultanées. Les autres polyphonies accompagnent une ligne principale. La nôtre gère souverainement plusieurs lignes à la fois. En quelque sorte, Arès et Aphrodite s'essayaient à un exercice de contrepoint lorsqu'Héphaïstos les a surpris. En associant leurs deux pulsions contraires, ils allaient produire une synthèse précieuse et précaire. Notre histoire nous a conduits à reprendre sans cesse leurs tentatives. C'est en somme la scène initiale de notre culture que le mythe grec racontait avec bonne humeur, à chaque génération de chercher la créativité dans la transgression et de se créer sa propre harmonie des contraires. Lorsque vers 1900, avec Debussy puis Schoenberg, l'harmonie est devenue un art de la couleur sonore et non plus la base d'une syntaxe, ce qui est demeuré comme valeur permanente a été la multiplicité des lignes. Presque aucune musique européenne ne s'est convertie à une linéarité comparable à celle que les cultures arabo-persanes et indiennes avaient su raffiner à l'extrême avant de céder à leur tour à la tentation du collier d'harmonie. Même dans les mélodies de masse de Varèse, de Xenakis ou des objets sonores électroacoustiques, la conquête de l'espace sonore s'affirme encore comme un développement de la polyphonie, une maîtrise du multiple. Il est certes arrivé, voici un quart de siècle, que la surenchère transgressive est apparue comme une vaine révolte et qu'une soumission béate à l'identique et au conforme a fait figure de meilleur projet. Des musiques se sont vautrées dans la consonance, pour mieux rejeter celle qui ne se promettait aucune autre finalité que l'innovation. C'est que, depuis le temps du premier scandale, les innovations esthétiques et politiques se sont longtemps renvoyées des images symboliquement associées. Arès et Aphrodite compromettaient l'ordre divin par leur création illicite d'harmonie. L'art des bruits dans la musique du XXe siècle, ou l'abstraction dans la peinture, se sont expressément voulus, à une certaine époque, comme des machines de guerre contre l'idéalisme bourgeois, et aujourd'hui, le retour en force des musiques tonales ne saurait être sans rapport avec la chute du mur de Berlin. Les derniers élans révolutionnaires en politique et les dernières idéologies avant-gardistes en art ont radicalement changé de régime. Est-ce à dire que le trousseau d'harmonie a perdu ses pouvoirs pervers et que des deux grandes dimensions de la culture, innovation et transmission, seule la seconde se prépare à régner après la fin de l'histoire? Il faudrait pour cela que le système politique qui tente de s'assurer le contrôle du monde cesse de valoriser l'initiative et l'invention. Mais il n'en est rien. Même au niveau un peu dérisoire de l'art publicitaire, il a besoin de mêler au désir une indispensable dose d'agressivité. L'idéologie commerciale, qui tente à prendre partout le pouvoir, demande à Aphrodite de multiplier les tentations et félicite en même temps ses meilleurs agents de faire usage de la violence et du cynisme d'Arès. C'est peut-être là la dernière trace de l'influence maléfique du trousseau d'harmonie. Le collier d'origine était une pièce unique, même si ses victimes étaient déjà nombreuses. La production industrielle le reproduit en quantité massive. Pour qu'il demeure désirable malgré sa banalité, il faut faire appel encore et toujours à Aphrodite. Le rôle d'Arès, qui autrefois préférait le viol à la séduction, sera désormais d'inventer des techniques de marketing pour renouveler sans cesse les pouvoirs de sa partenaire. Les différences d'une œuvre d'art industrielle à une autre sont peu signifiantes dans un système totalitairement conformiste. Il est donc d'autant plus important, pour maintenir la fiction d'une innovation, de la faire porter sur des détails de plus en plus minces qui ne remettent pas en cause les clichés dominants. Ce à quoi pourrait aboutir l'héritage d'harmonie, c'est l'entropie totale de la création artistique réduite à une production de masse. Au sortir des excès d'une période où l'idéal exclusif de la transgression et de l'innovation finissait par ruiner toute transmission, nous sommes en butte à ceux d'un temps qui semble prêt à renoncer presque complètement à l'innovation pour qu'un très petit nombre de produits standardisés fasse l'objet de la plus large transmission. Arès est prié de devenir simplement le souteneur d'Aphrodite. Dans un tel contexte, l'autonomie et même la légitimité des questions esthétiques et des arts eux-mêmes sont fatalement remises en cause. Récemment, le président de la principale entreprise culturelle française, TF1, qu'il dit par ailleurs être une activité sans mémoire, définissait sa mission comme un conditionnement des cerveaux visant à les rendre réceptifs aux publicités d'une boisson gazeuse. Si cette vision de la culture finit par prendre toute la place, la musique classique, par exemple, ne sera plus qu'un stimulus destiné à vendre des produits de luxe. Et il faut s'attendre à voir s'intercaler entre les mouvements d'une symphonie ou à la place d'une cadence de concerto, des messages publicitaires soigneusement ciblés. Quant à la création artistique, elle ne serait plus qu'un artisanat au service des valeurs acceptées par la société, et l'on ne manquerait pas de rappeler que cela fut jugé normal à peu près partout jusqu'à leur naissance. Arès et Aphrodite continueraient sans doute leurs incartades, mais la naissance d'une nouvelle harmonie serait soigneusement évitée grâce à la contraception. Permettez-moi de ne pas pousser plus avant cette rêverie mythologique dont mon vœu le plus cher est qu'elle s'avère très largement fausse.
Je remercie M. François-Bernard Masch. Je vous propose d'écouter à nouveau Sœur Marie Kéroutz et ses musiciens pour un extrait de l'opéra Gallia de Gounod, Jérusalem revient vers le Seigneur. Je remercie Sœur Marie Kérouz et donne la parole à Madame Dominique Meyer, déléguée de l'Académie des sciences, pour la lecture de son discours « La nature, leçon d'harmonie ».
Hostile ou accueillante, la nature cache aux hommes ses mystères, ne leur offrant à admirer que sa beauté. Mais les scientifiques, insatiables et fous du désir d'en violer les secrets, nous dévoilent sans cesse de nouvelles raisons d'être séduits. Autour de nous, il n'y a pas de plus simple, de plus parfaite leçon d'harmonie qu'une rose, le vol d'un oiseau ou le mouvement des vagues, mais c'est en biologiste que j'aimerais vous parler d'autres accords de la nature au charme plus austère. Chacun de nous, l'éphémère, l'olivier millénaire, né d'une seule cellule, fruit de tant d'attirances. Un miracle qui représente, aux yeux de François Jacob, le phénomène le plus stupéfiant, l'histoire la plus étonnante qu'on puisse raconter sur cette terre. Cette histoire commence avec l'espoir de toute cellule se diviser. Encore faut-il qu'elle le fasse au bon moment, au bon endroit, de bonne façon, comme l'exige la construction réussie d'un organisme vivant. Cette aventure risquée suppose un enchaînement parfaitement harmonieux entre, nombre à peine croyable, des centaines de milliers de réactions inscrites dans le programme génétique de chaque cellule, réactions qui se suivent, se chevauchent, se croisent dans un ballet d'une formidable complexité. Un défi pour les biologistes du développement qui vont pas à pas proposer les clés de cette organisation a priori inextricable. Ils nous révèlent que des gènes régulateurs, innombrables architectes, induisent et maîtrisent par de multiples combinatoires hiérarchisés la destinée topographique et fonctionnelle des cellules embryonnaires. Cellules ainsi conduites, après migration, à se différencier de façon très variée pour constituer les différents organes. Un chef-d'œuvre de conception et de réalisation, de rigueur et de précision. Les plus fameux de ces gènes régulateurs ont eu le privilège d'enchanter les généticiens. Avec stupéfaction, ils ont découvert que les gènes de la famille Ox, mettant en place le plan d'organisation d'un embryon humain, étaient extrêmement proches de gènes jouant un rôle comparable chez un ensemble d'animaux et de végétaux. La souris côtoie ici la célèbre mouche drosophile, mais aussi Caenorhabditis elegans, petit ver devenu la coqueluche des biologistes, et même une plante à fleurs, Arabidopsis thaliana. Ainsi, merveille de l'unité du monde vivant, nous partageons ces gènes rescapés de l'évolution avec nos ancêtres communs d'il y a plus d'un milliard d'années. Hélas, le chaos menace à tout instant l'harmonie du développement. On le découvre lorsque l'un des exécutants de la fragile partition fait une fausse note. La moindre mutation, le plus petit décalage dans l'expression d'un gène peuvent alors être redoutables. Les drosophiles n'échappent pas à ce péril et nous leur devons ainsi, depuis Thomas Morgan, beaucoup de clarté sur l'embryogenèse. Transformées en monstres par fantaisie de la nature ou manipulation génétique, elles ont des pattes au lieu d'antennes, elles n'ont plus d'ailes ou en ont trop. Il serait toutefois injuste de discréditer à l'excès les fausses notes, car c'est aussi le hasard d'heureuses mutations qui a façonné l'évolution. Claude Bernard a écrit « La vie, c'est la création », tout en ajoutant « La vie, c'est la mort », montrant ainsi combien construction et destruction sont complémentaires dans la nature. Développant cette idée ici même il y a quelques mois, Nicole Ledoirin soulignait dans un exposé captivant à quel point la destruction cellulaire programmée, dénommée « apoptose », compense la prodigalité de la nature et fait partie de l'embryogenèse. Cette apoptose, en assurant la survie des cellules les plus utiles, représente donc pour l'organisme une forme d'harmonie, mais, osons la contradiction, une funeste harmonie fondée sur l'existence dans chaque cellule d'un programme génétique létal. L'hécatombe est particulièrement lourde pour les cellules nerveuses embryonnaires. Les infortunés neurones qui ont développé peu de connexions ou les ont mal conduites sont éliminés au profit d'une sorte de darwinisme neural, autrement dit d'une sélection bénéfique. De même, certains d'entre nous ignorent peut-être qu'en souvenir de quelques ancêtres aquatiques, leurs mains et leurs pieds étaient palmés à un stade de leur développement et qu'ils doivent la liberté de leurs doigts à une destruction cellulaire opportune. Plus tard dans la vie, l'apoptose va connaître des égarements. Défaillante, elle épargnera d'indésirables cellules cancéreuses. Excessive, elle détruira de précieux neurones. Enfin, surprise, mais confirmation de l'unité du monde vivant, ce phénomène concerne aussi les plantes et leur permet de se protéger de leurs ennemis en créant dans leurs feuilles ces trous qui nous intriguent, vraie stratégie de la terre brûlée. Chez un très grand nombre d'êtres vivants, le développement conduit à un organisme qui frappe par sa symétrie. Le sentiment d'harmonie inspiré par les symétries de la nature a vraisemblablement accompagné l'homme dès ses origines, probablement aussi contribué à son sens esthétique. L'importance de la notion de symétrie dans les sciences ne se limite pas aux êtres vivants. Pierre Curie fit une étude de la symétrie des états physiques et postula que pour un phénomène, les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits. Très récemment, Édouard Brézin a pu écrire « La symétrie détermine le monde ». Mais la nature aime aussi nous jouer des tours et cacher derrière une apparence symétrique de remarquables asymétries. Non seulement notre cœur n'est pas au milieu de la poitrine, mais à la suite de Pasteur, les biologistes ont découvert que les molécules constitutives du monde vivant étaient, comme la main, non identiques à leur image dans un miroir, une chiralité qui se révélera universelle. Ainsi, les hélices d'ADN tournent vers la gauche chez tous les êtres vivants. Cette différence avec la matière inerte reste l'une des énigmes concernant l'origine de la vie. Construit avec tant de rigueur, tant de raffinement, mais tant d'aléas, les êtres vivants émerveillent par la richesse de leurs fonctions. Fonctions éparses que Claude Bernard aura le génie de rapprocher. Et il l'exprime ainsi. Tous les phénomènes du corps vivant sont dans une harmonie réciproque telle qu'il paraît impossible de séparer une partie de l'organisme sans amener immédiatement un trouble dans tout l'ensemble. Pour asseoir sa thèse, il invente le concept de milieu intérieur, entité groupant sang et liquides organiques, une sorte de mer intérieure protectrice qui baigne les cellules et s'efforce de les mettre à l'abri des tempêtes de l'environnement, ce qu'on appellera plus tard l'homéostasie. Dès lors, les physiologistes vont penser autrement. Ils comprennent que chaque organisme vivant doit être considéré comme un tout fonctionnel, véritable société formée de cellules très diversement spécialisées, mais unies dans l'harmonie d'une aventure commune. Processus aussi vrai pour le petit ver aux 959 cellules que pour l'homme qui en compte plus de 100 000 milliards. C'est par de gigantesques réseaux de signaux régulateurs que sont coordonnés ces ensembles de cellules. Ce rôle revient au système neuro-hormonal, en particulier à son maître d'œuvre, le cerveau, constitué de différentes structures échelonnées, souplement hiérarchisées, vestiges des étapes de l'évolution. Bien qu'intimement connectées, ces structures n'ont pas toutes la même mission. Les plus anciennes ont essentiellement des fonctions vitales, en grande partie inconscientes et automatiques, tandis que les plus récentes ont des activités beaucoup plus élaborées. Ainsi, c'est essentiellement grâce à une structure ancienne, l'hypothalamus, que nous pouvons maintenir l'équilibre dynamique de notre milieu intérieur, succession de déséquilibres naturellement compensés. Les messagers sont ici les voies neurovégétatives et neurohormonales qui illustrent l'étonnante symphonie entre système nerveux et système endocrinien, ces deux inséparables, comme en témoigne la découverte par Étienne Beaulieu d'une production d'hormones stéroïdes dans le cerveau. Structure plus récente, le néocortex est si développé qu'il a dû se replier pour tenir dans la boîte crânienne. C'est particulièrement au néocortex frontal, symbole de l'hominisation, explosif dans son expansion, que nous devons nos facultés cognitives et relationnelles. C'est pourquoi cette région du cerveau a pu être appelée l'organe de la civilisation. Les extraordinaires performances du cerveau humain sont moins dues à l'abondance des neurones qu'à l'extrême richesse de leurs connexions, d'une efflorescence telle qu'un très jeune enfant en construit 2 millions chaque minute, encore un grand nombre, pardonnez-moi. Pour assurer ces connexions, la nature a inventé la synapse, passionnante structure de rapprochement entre neurones ou entre neurones et muscles, lieu où le signal chimique du neuromédiateur rejoint son récepteur. La diversité et l'action nuancée des neuromédiateurs, la souplesse des récepteurs, confèrent aux synapses une plasticité remarquable qui détermine la subtilité d'un cerveau perpétuellement inventif. On a même pu écrire, formule plutôt hardie, « Nous sommes ce que sont nos synapses ». Par sa fameuse phrase « Apprendre, c'est éliminer », Jean-Pierre Changeux souligne que l'apprentissage, lié à cette plasticité, représente un choix qui sélectionne et stabilise certaines connexions au détriment d'autres, illustration de la prodigieuse épigénèse, cette création de chacun qui complète l'apport génétique. Un apprentissage en harmonie avec le milieu, à son maximum dans l'enfance avec l'acquisition du langage et de l'écriture, mais une aptitude qui va durer pendant toute la vie et nous aider à être libres. Ainsi, l'expérience individuelle mémorisée structure en permanence l'organisation neuronale et le jeu du cerveau. C'est de cette construction personnelle que dépend la manière dont nous vivons nos représentations, nos anticipations, aussi nos actions et bien entendu nos relations avec l'autre. À l'évidence, il y a peu d'activité cérébrale sans une part d'émotion et tous nos comportements sont simultanément influencés par nos désirs, nos plaisirs ou nos aversions, le rôle joué ici sélectivement par les neuromodulateurs étant de mieux en mieux compris. Rien n'est donc figé et les neurobiologistes nous ont appris que le cerveau fonctionnait en réseau flexible qui se fond et se défond au gré des tâches engagées dans une continuelle dynamique d'adaptation. Malheureusement, ces belles constructions vivent sous la menace permanente de microbes, de virus ou de parasites et ont dû progressivement développer au cours de l'évolution des moyens de défense qui supposent deux types d'accords. En premier lieu, un lien entre les défenseurs, les soldats, essentiellement des lymphocytes, qui doivent coordonner leur lutte en s'échangeant des informations et des ordres d'action. En second lieu, une marque de reconnaissance commune à l'ensemble des cellules qui aide à dépister l'ennemi et à le combattre. Cette marque distinctive du soi et du non-soi a été découverte chez l'homme par Jean Dausset. Baptisée complexe HLA, elle est faite de caractères génétiques offrant une telle multiplicité de combinaisons qu'il n'existe sans doute pas sur la Terre deux humains porteurs du même code HLA, mis à part les vrais jumeaux. Il s'agit donc d'une véritable carte d'identité et chacun sait son importance pour le choix d'une greffe compatible comme son rôle déterminant en anthropologie pour la recherche de paternité ou la détection d'un criminel. Ainsi, maître des armes et de l'état civil, le couple lymphocyte-molécule-HLA représente, par ses extraordinaires facultés de mémoire et d'adaptation à l'adversité, l'ensemble fonctionnel le plus subtil de notre organisme après le système nerveux. Mais l'immunologie réserve parfois des surprises et plus elle a progressé, plus a été stupéfiante l'absence, chez les humains et les autres vivipares, de réaction immunologique de la mère vis-à-vis du fœtus, bien que celui-ci soit étranger par l'apport génétique paternel. Une tolérance mystérieuse qui autorise la plus belle des harmonies. C'est dans une toute autre forme d'interdépendance que vivent beaucoup d'animaux et de végétaux. En voici trois exemples très courts. Harmonie trop parfaite. Les colonies de fourmis répètent inlassablement et sans fantaisie ce que leur dicte leur programme génétique, avec pour seul objet la reproduction de l'espèce. Harmonie trahie. Les mitochondries de nos cellules et les chloroplastes des végétaux, structures précieuses, étaient dans un très lointain passé des bactéries vivant en symbiose qui ont ultérieurement été annexées au détriment de leur individualité. Harmonie pittoresque. La vanille et la méliponne pourraient être le titre d'une fable de La Fontaine. Elle raconterait comment des plants de vanille mexicains introduits à La Réunion n'avaient pu s'y reproduire. Que leur manquait-il ? Tout simplement leur compagne américaine pollinisante, l'hyménoptère méliponne, qu'aucun insecte réunionnais ne pouvait remplacer. Ces exemples d'interdépendance nous conduisent à évoquer notre place dans le monde vivant. Privilégiés de l'évolution, nous ne sommes pourtant que l'un des éléments de l'immense chaîne de solidarité des mondes animal et végétal, tributaires, nous aussi, des cycles de l'azote, du carbone et de l'oxygène, donc de la providentielle photosynthèse placée sous la tutelle du soleil. Dans les nouvelles nourritures, Gide dit à Nathanaël, tu n'admires pas comme il le faudrait ce miracle étourdissant qu'est ta vie. Écoutons-le et goûtons ses harmonies. Ce sont nos vies, nos actions, nos plaisirs.
Je remercie Madame Dominique Meyer. Je donne maintenant la parole à Monsieur Jean-François Jarige, délégué de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour la lecture de sa communication intitulée « Harmonie, Dharma, Dao, l'homme face au chaos ».
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette petite phrase que l'on attribue à Lavoisier faisant écho à la célèbre citation d'Anaxagore de Clazomène en 450 avant Jésus-Christ, « Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent puis se séparent de nouveau », allait donner naissance à des lois aussi révolutionnaires en Occident pour les tenants de l'existence d'un Dieu créateur, source unique de toute harmonie universelle, que le sera la théorie de l'évolution de Darwin. Dès le début du XIXe siècle, les traductions des grands textes de l'Inde et de la Chine vont permettre aux Européens de prendre conscience que depuis des millénaires, les sages de l'Asie avaient eux aussi, sous des formes diverses, découvert ce même principe. Si la Chine avait bien connu au deuxième millénaire avant notre ère un seigneur d'en haut, Shangti, dominant le monde tel un souverain, cette figure passe rapidement au deuxième plan. Dès le premier millénaire avant notre ère, les philosophes chinois formulent la doctrine du Tao, du Yin, du Yang, et des cinq phases relatives à l'univers mues par une énergie nommée Tsi, le souffle, animant les êtres et les choses sur la terre et sur le ciel, en suivant un cycle invariable et sans fin, où tout déclin, inévitablement, est suivi d'une ascension. Le livre de la voie et de la vertu déclare « La voie du ciel tend vers l'équilibre, vers l'harmonie, son mouvement est sans faute et sans usure ». Cette voie, principe de régulation, née de l'interaction du ciel et de la terre, d'où procède le renouvellement sans fin du monde, les hommes sans cesse tendent à la perdre. Œuvrer au moyen de la retrouver, de faire renaître l'harmonie dans l'univers, est le devoir du saint taoïste comme de l'homme de bien confucéen. Toute une civilisation s'est ainsi construite sur cette quête toujours recommencée, ce désir qui jamais ne fléchit de réaliser l'équilibre au sein d'un cosmos auquel l'homme participe au même plan que la terre et le ciel. Le Lao Tzu, aux environs du 4e, 3e siècle avant notre ère, énonce ainsi les faits. Le Tao engendre l'un, un engendre deux, deux engendre trois, et trois les 10 000 êtres. Presque dans le même horizon chronologique, Platon, dans le Timée, établit que les nombres 1, 2 et 3 constituent les éléments de base de l'harmonie cosmique de l'univers. Aristote nous dit lui aussi que le monde est tout ce qu'il contient déterminé par le nombre 3. Ainsi, avant la naissance de l'astronomie moderne, pendant de nombreux siècles, aussi bien dans le monde de notre tradition classique qu'en Chine, la géométrie du ciel et de la terre correspondra à une harmonie musicale fondée principalement sur un système ternaire. Cette géométrie du ciel, symbolisée par le cercle, et de la terre, matérialisée par le carré, domine la conception architecturale de la Chine et des pays sinisés. Le choix de l'emplacement de tout édifice répond à des règles nombreuses qui correspondent aux notions d'ordre et d'harmonie de la cosmologie traditionnelle. Les villes, les palais, les bâtiments cérémoniels et les habitations s'inscrivent dans un ensemble de carrés imbriqués, délimités par des séries d'enceintes le long d'un axe central, échelonnés du sud au nord selon leur ordre d'importance. Dans ces grands ensembles d'une stricte géométrie axiale et horizontale, tout un réseau de jardins se caractérise par l'asymétrie, les courbes qui évoquent avec leurs rochers et leurs bassins reflétant le ciel, la beauté mystérieuse de la nature sauvage, celle des grands paysages, des montagnes et des eaux. La récente exposition du Grand Palais, Montagne Céleste, a été l'occasion de présenter un magnifique ensemble de peintures illustrant le goût des Chinois pour une nature reposant sur un ordre universel où le ciel, la terre et l'homme sont unis dans une profonde harmonie cosmique. Ces grandes scènes de paysages semblent accorder à l'homme une place infime. Pourtant, l'inspiration lyrique des artistes chinois les transforme en expression d'état d'âme, dont la profondeur rejoint les grandes méditations des maîtres de la peinture occidentale. Le monde sinisé a connu, comme partout ailleurs et à toute époque, la plainte de ceux qui doivent vivre dans un univers livré à une nécessité aveugle, au hasard, à l'injustice et à la souffrance. Mais le sage en Chine ne tourne pas son regard vers un autre monde céleste ou idéal pour y découvrir l'harmonie qui fait défaut au nôtre. Il se conforme à l'ancien classique du changement en décrivant ce qu'il a sous les yeux pour en faire apparaître la cohérence, expliquer le fonctionnement des forces de la nature. Ainsi peut-on essayer de vivre le mieux possible selon une morale en harmonie avec le monde qui nous entoure. Un tel choix de vie n'est pas sans présenter quelques ressemblances avec l'attitude de nombreux sages de notre antiquité classique. Lorsque le bouddhisme atteint la Chine, la Corée et surtout le Japon, les fondateurs des grandes sectes, souvent eux-mêmes poètes, peintres et sculpteurs, vont chercher à conduire les hommes vers l'éveil par une esthétique fondée sur une profonde harmonie avec la nature. Ainsi, le moine Kobodaishi, de retour de Chine, fonde en 816 le temple du Koyasan dans un splendide paysage de montagne qui, avec sa ceinture de 8 monts, est la matérialisation sur terre du mandala central du bouddhisme ésotérique. Aujourd'hui encore, de ces sanctuaires entourés de cimes couvertes d'arbres pluricentenaires, au milieu des nuages et des brumes, s'élève le chant rituel du Shomyo, emprunté à l'Inde et à la Chine, et dont Kobodaishi disait « Lorsque toutes choses qui ont une voix en ce monde la font résonner tout ensemble, gardant leurs caractéristiques tout en se fondant en un son unique, ce dernier se rapproche le plus de la voix du Bouddha. » Dans l'ancienne capitale Kyoto, des moines créent alors des jardins souvent dédiés au Bouddha Amida, dont la beauté exprime l'harmonie de la terre pure où les âmes des futurs délivrés attendent leur dernière incarnation précédant l'éveil. Par la suite, inspirés par la peinture chinoise de l'époque Song, les moines zen réalisent dans des espaces souvent très réduits d'admirables paysages, dressant des pierres, traçant des sillons dans du gravier qui évoque, comme au Daitokuji au XIVe siècle, le fleuve de la vie, le grand océan, symbolisant le destin de l'homme et de sa place dans l'univers. Plusieurs de ces jardins conduisent à des pavillons d'une simplicité raffinée, où se pratique la voie du thé qui permet de conjuguer le sentiment du beau et de l'hospitalité avec l'esprit de dépouillement et de maîtrise de soi. En postface au célèbre ouvrage d'Okakura Kakuzo, le livre du thé, le maître Sen Soshitsu XV écrit « Il convient de vivre en aiguisant son attention sur le moindre détail, fleur caractéristique de la saison, le son de l'eau versée sur la pierre, l'instant où le soir se métamorphose en crépuscule, non parce que ces choses alimenteraient notre ego, mais parce qu'elles mettent nos vies en harmonie avec ce qui transcende l'ego. » Quant aux penseurs de l'Inde, beaucoup considèrent que tout ce qui existe est la manifestation des virtualités contenues en germe dans une vibration éternelle. L'existence est ainsi un ensemble indéfini d'harmoniques dont la référence unique est le son fondamental dont la transcription en langage humain prend la forme d'un monosyllabe « Om ». L'univers est donc conçu comme une vibration éternelle qui se déploie, s'enrichit, puis dépérit et meurt dans un processus de résorption à partir duquel se forme un autre univers. Ce grand principe de stabilité universelle s'appuie sur la notion de dharma, puissance surnaturelle qui provient de la racine dar, soutenir, maintenir, sauvegarder. Ce terme a le sens général de régularité, d'harmonie, d'équilibre fondamental, présidant à l'existence du cosmos, de la nature, de la société et de l'individu. Toute conduite contraire au dharma, toute violation de cette puissance fondamentale et universelle trouble l'harmonie, compromet la stabilité, brouille les relations normales et instaure le chaos. Une fois ce principe accepté, chacun peut se représenter l'absolu, le principe suprême, Brahman, comme il le désire et choisir le nom sous lequel il veut l'adorer. Mais le but ultime que bien peu atteignent est de prendre conscience du caractère illusoire du monde afin de se libérer du cycle des renaissances pour réaliser ensuite l'absolu en soi ou pour les bouddhistes pour atteindre l'éveil. Toutefois, la plupart des grands maîtres spirituels de l'Inde ont fait preuve de pragmatisme en admettant que l'immense majorité des hommes étaient appelés à conduire leur vie spirituelle dans ce monde des apparences auquel il convenait donc d'accorder une certaine réalité. Les arts font partie, tout comme les techniques de méditation, de dévotion ou de contrôle du corps par le yoga, des sentiers qui conduisent les hommes vers la réalisation en eux-mêmes de l'absolu ou vers l'éveil. C'est grâce à ce pragmatisme bien éloigné du nihilisme qu'on attribue parfois à la pensée indienne que les visiteurs du musée Guimet peuvent, en parcourant les galeries consacrées aux arts du monde indianisé, éprouver le sentiment d'entrer dans un monde d'harmonieuse sérénité. Les êtres révérés et les divinités apparaissent dans le plein épanouissement de formes juvéniles qui transposent dans la réalité une conception idéalisée de la nature. La statuaire de l'époque Gupta, 4e, 5e siècle, offre en particulier de magnifiques exemples de morphologies fluides et dépouillées que des subtilités du modelé rendent palpitantes de vie. Les grands mythes cosmiques trouvent de puissantes expressions sculptées dans les falaises des grottes sacrées et des sanctuaires. À Deogarh au 6e siècle ou à Mavalipuram au 7e siècle, le grand dieu Vishnu apparaît couché sur le serpent infini, Ananta, flottant sur l'océan primordial entre deux âges cosmiques. Alors que le monde précédent a été dissous dans l'eau, le dieu au corps harmonieux rêve en toute sérénité le monde qu'il va créer. Quant au dieu Shiva, autre expression de cet absolu que tout homme doit rechercher en lui-même, il interprète dans un cercle de flammes la danse cosmique qui crée et détruit les mondes, comme l'illustre bien un beau bronze du XIe siècle du musée Guimet. Rarement la statuaire a su atteindre cette grandiose harmonie entre l'admirable modelé du corps du dieu et l'énergie éternelle qui anime le flux sans fin du cosmos. De la même époque, et toujours au musée Guimet, un autre bronze splendide modelé représente le même dieu Shiva jouant de la vina, le luth indien, symbolisant son rôle de maître des sciences et des arts, dans une attitude qui rappelle celle d'Orphée, lequel, par la mélodie, le rythme et l'harmonie de sa lyre, pénètre les secrets de la nature. D'autres sculptures nous montrent le talent d'artistes indiens pour réaliser la fusion harmonieuse des principes masculins et féminins dans les corps androgynes de Shiva Parvati ou de Vishnu Lakshmi. La pensée chinoise et la pensée indienne se situent dans des univers très différents de la perspective judéo-chrétienne. Pour celle-ci, le monde a été créé de rien par Dieu, qui est d'une nature totalement distincte de sa création. Le processus du monde n'a qu'une durée limitée jusqu'à ce que la puissance de Dieu le détruise pour produire une nouvelle terre libérée de la malédiction du péché. Dans un tel monde où l'homme est marqué par la chute originelle, l'harmonie ne peut se concevoir que comme un reflet ou un avant-goût de celle du royaume des cieux. Ainsi, les artistes se doivent-ils non pas d'exalter l'harmonie de l'homme avec la nature, mais d'illustrer, comme ils l'ont si souvent fait de façon admirable, la grande dramaturgie de l'Ancien et du Nouveau Testament, et tout particulièrement le sacrifice du Christ. La pensée judéo-chrétienne est donc à première vue bien éloignée de la sagesse chinoise et indienne, tout comme celle de l'Antiquité gréco-romaine. Les philosophes platoniciens ou stoïciens, comme les penseurs de la Chine et ceux de l'Inde, sont restés suffisamment pragmatiques pour admettre la nécessité de respecter les mythes et les traditions poétiques et religieuses, considérés comme les ciments de la société. Mais comme le rappelle Pierre Hadot dans le Voile d'Isis, le sage dans notre monde classique ne saurait se contenter de ces mythes, quelle que soit leur beauté poétique. Il recherche une vraie science de la nature ou bien considère, comme les stoïciens, que les dieux ne sont que les différentes formes d'un dieu unique qui est la nature avec laquelle il convient de vivre en harmonie. Lorsque nous avons évoqué la cohérence des opposés en Chine et l'unité qui se cache en Inde derrière la diversité, comment ne pas penser à Héraclite déclarant « En honorant le dieu de la vie Dionysos, j'honore en même temps le dieu de la mort Hadès. Ils sont le même, l'un ne se conçoit qu'à travers l'autre. » Par ailleurs, nous savons tous combien forte a été l'influence de la pensée chrétienne sur le néoplatonisme, notamment de Plotin, si marqué par la philosophie indienne et celle du stoïcisme. Clément d'Alexandrie, stoïcien devenu chrétien, ne déclarait-il pas que le christianisme disposait de deux anciens testaments, celui des Hébreux et la philosophie grecque. Dans son célèbre ouvrage, l'Inde, le grand géographe Al-Biruni, mort à Razni en 1048, met en relief l'harmonie qu'il constate entre la philosophie platonico-pythagoricienne, la sagesse indienne et certaines conceptions du soufisme en islam. Qu'il s'agisse de la voie du Tao, de l'idéal confucéen ou des règles intangibles du Dharma, l'harmonie avec la nature ou avec le monde des idées, telle que nous avons pu brièvement l'exposer, favorise un certain conservatisme de la société. On ne saurait retrouver en Chine ou en Inde l'équivalent du mythe de Prométhée, du héros s'opposant aux dieux et dévoilant les secrets de la nature pour les mettre au service des hommes, sans hésiter à ébranler une certaine cohésion ou harmonie sociale, en conflit avec cette liberté individuelle sur laquelle l'Occident s'est en partie construite. Mais après certaines des utopies sanglantes du XXe siècle, cherchant à construire un monde harmonieux par la dictature du prolétariat ou la domination des êtres supérieurs, comment s'étonner de l'engouement de ceux qui portent de plus en plus leur intérêt sur les rayons des librairies consacrées à la sagesse orientale ? Mais comment ne pas regretter que, dans le même temps, notre éducation nationale considère de plus en plus qu'un enseignement minimum du latin, sans parler du grec, relève d'un élitisme désuet ? Comment croire que cette sagesse orientale ou occidentale plurimillénaire, fondée sur des citations et des textes miraculeusement préservés par des générations qui les ont mémorisés ou transcrits, serait un héritage inutile pour essayer de construire un monde plus juste et donc plus harmonieux ? Les langues dites mortes comme le grec, le latin, le sanskrit ou difficiles comme le chinois classique nous parlent, comme toutes les œuvres artistiques qui éclairent la profondeur de l'âme humaine, de ce désir multimillénaire d'harmonie avec la nature, avec le monde des idées et surtout avec tous les êtres qui ne sont, comme le répètent les sages indiens, que d'autres nous-mêmes. Lorsque la science qui depuis 3 siècles déploie pourtant la réalité du monde avec de plus en plus de précision, ne sait plus répondre aux questions essentielles que se posent depuis toujours les hommes, alors ces strates de sagesse des différentes civilisations et la beauté du monde des apparences créées tant par la nature que par les artistes inspirés nourrissent notre rêve d'harmonie. Celui-ci nous aide à vivre face aux ordres, face aux forces de désordre et de chaos, dont nous savons qu'elles sont aussi des composantes de l'univers et donc de chacun de nous.
Je remercie M. Jean-François Jarige. Et je donne la parole à Mme Florence Delay, déléguée de l'Académie française, pour la lecture d'une communication intitulée « Une très vieille convivance ».
Un jeudi du printemps dernier, la compagnie que j'ai le plaisir de représenter cet automne a fait entrer un mot nouveau dans son dictionnaire, le mot « convivance ». Divers organismes l'ont prié depuis des années. Une charte établie par l'association Pro-Europe Unitate avait eu premièrement recours à ce néologisme dans une lettre adressée en avril 1995 à notre secrétaire perpétuel qui n'était pas encore honoraire. Le président de cette charte européenne de convivance relevait que les correspondants de presse français à Rome n'avaient pas su traduire l'appel au dialogue et à la paix prononcé en italien par le pape dans sa bénédiction Urbi et Orbi. Jean-Paul II avait par 2 fois prôné una convivenza entre peuples et fractions d'un même peuple et, le mot manquant, la presse avait traduit par convivialité. Convivialité, mot sympathique, certes, emprunté de l'anglais et mis en circulation au XIXe siècle par le gourmet Bria Savarin. Mais qui dit le goût des agapes joyeuses et dont la tonalité festive ne convient pas à la vie de tous les jours. Alors, cohabitation ? Cohabitation désigne le partage d'une demeure par goût ou par nécessité. Ce mot nous rappelle l'obligation d'habiter avec un mari, avec un parti. Il nous met un peu à l'étroit, tandis que coexistence lance dans de trop vastes espaces où l'homme a pu coexister avec des espèces disparues comme le mammouth et le roc. Bref, le terme capable d'exprimer tout simplement la vie les uns avec les autres nous manquait. Et lorsqu'un jeudi du mois d'avril, après avoir examiné son étymologie si naturelle et retrouvé sa source perdue, l'ancien verbe convivre, cum vivere, notre compagnie adopta convivance à l'unanimité, moins une ou deux abstentions, une étrange sensation de reconnaissance m'envahit. Je revis des clochers en briques, ressemblant à des minarets, des églises en forme de synagogue. J'entendis bruire l'eau des fontaines à l'intérieur d'une cathédrale qui était une mosquée. C'est que ce mot nouveau pour moi était très vieux. Il résonnait dans ma tête sous sa forme espagnole de convivencia. La convivencia, ceux qui connaissent l'histoire de l'Espagne savent que ce mot embrasse une période qui dura près de 8 siècles et pendant laquelle juifs, chrétiens et musulmans vécurent ensemble. De 711, où la péninsule hispanique fut conquise par quelques dizaines de milliers d'Arabes et de Berbères, à 1492, qui marque la fin de ce qu'on appelle la Reconquête. Le 2 janvier 1492, les clés de Grenade, dernier bastion des morts, furent solennellement remises au roi catholique. 2 mois plus tard, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille signaient le décret d'expulsion des Juifs. Ceux qui professaient la religion hébraïque et côtoyaient depuis les temps les plus reculés les populations chrétiennes et musulmanes eurent 4 mois pour liquider leurs affaires, partir avec leurs biens ou se convertir. Dans sa mansuétude, l'inquisiteur Torquemada ajouta 9 jours au délai pour compenser les retards dans la publication du décret. Les rois signeraient 10 ans plus tard le décret d'expulsion des Morisques, contraignant les musulmans de Castille à choisir entre le baptême ou l'exil. C'en était fini. Hispania avait cessé d'être cet espace géographique où avait eu lieu une expérience unique. Ne mythifions pas cependant la réalité historique, elle eut aussi son lot de drames, oppression des minorités, humiliation, livres brûlés, conflits internes brutaux, tels celui des sunnites et des chiites à l'intérieur du royaume d'Al-Andalus, raids frontaliers, batailles, comme en témoigne le concept même de reconquête. Concept forgé après coup. On ne peut appeler reconquête, ironisait le philosophe Ortega y Gasset, une guerre qui dura 8 siècles. Les thèses des historiens continuent de diverger sur cette longue durée troublante et troublée. Je suis quant à moi du parti qui reconnaît dans l'originalité de l'homo hispanicus le fruit d'une histoire marquée par cette convivance. Il serait bien sûr aberrant de plaquer sur l'Espagne des trois religions le mot qui nous occupe aujourd'hui, mais il le serait tout autant de nier qu'une harmonie exista en certaines périodes, en certains lieux, souvent par la grâce de certains hommes. Individus parfois plus forts que les masses, créant des accords, des échanges, des utopies, des souvenirs si fertiles que le présent en garde encore la trace. Anonymes auteurs du romancero, politiques éclairés comme l'émir Abdelrahman III, premier calife de Cordoue, ou encore le roi Alphonse X El Sabio, sage ou savant, c'est le même mot, génies multiples et inquiets comme Ibn Hazm, auteur du collier de la colombe, que l'on a décrit comme un maillon mort de la chaîne qui va de Sénèque à Unamuno, ou comme le philosophe du guide des égarés, le grand Maïmonide. Grâce à la convivance, eut lieu le plus extraordinaire rendez-vous du Moyen-Âge, le rendez-vous entre l'Orient et l'Occident. C'est à Tolède, barbare sous les Visigoths, puis musulmane, juive et chrétienne, constitue idéalement la rencontre entre les sciences des Grecs, recueillies par Al-Andalus, mathématiques, astronomie, chimie, médecine, géographie, sciences des anciens, disaient les Arabes, et la pensée judéo-chrétienne. À Tolède, un bourguignon, l'archevêque Raymond de Salvetta, créa la plus fameuse des écoles de traduction. Le processus que les documents mettent en lumière était le suivant. Un juif de langue castillane, expérimenté en arabe, traduisait en roman le texte arabe et un clerc se chargeait ensuite de le mettre en latin. La science chrétienne, par ce biais, eut connaissance d'Aristote. Nombreuses furent aussi les traductions simultanées en latin et en hébreu. De ces contacts, de ces lectures, les uns des autres, naquirent des œuvres fondatrices. Sans Tolède, prise ici comme symbole, les œuvres d'Averroès, de Maïmonide, de saint Thomas, qui avec des solutions différentes posèrent les mêmes problèmes fondamentaux, rapport de la foi et de la raison, preuve de l'existence de Dieu, nominalisme et réalisme, n'auraient pas atteint le même degré de maturité. Dans un congrès sur le philosophe et médecin de Cordoue qui vient de se tenir dans sa ville natale, on a rappelé qu'au Caire, en Égypte où il s'exila, existait dans les années 40 du siècle dernier un lieu dit « synagogue de Maïmonide », auquel on attribuait des pouvoirs curatifs. Les malades y entraient, juifs, aussi bien que chrétiens ou musulmans, et ils pouvaient y passer la nuit. Le professeur qui rapportait cette histoire ajoutait qu'elle était aujourd'hui inconcevable et concluait tristement « Nous entrons dans le XXIe siècle comme les crabes, à reculons ». Au cœur du XIIIe siècle, la pensée fédératrice du roi Alphonse X le Sage créa un moment d'harmonie. Ce prince astronome, qui écrivait ses poèmes en galicien, fit compiler la première chronique générale, soit une première histoire de l'Espagne, non point en latin, mais en langue vulgaire. Il parut à ce souverain, sensible aux lumières de l'islam andalou, entouré d'astronomes et de mathématiciens juifs, que le latin constituait davantage un empêchement à la culture originale de ces royaumes qu'un lien. Et pour la première fois dans l'histoire de l'Occident, l'idée du savoir fut séparée du latin. Non que l'on érigea un temple à la langue castillane, comme Dante allait faire avec la langue toscane. Non, on substituait au latin et à l'arabe une langue commune d'accès aux connaissances de l'époque. Créée par la langue de Castille, un terrain neutre et harmonieux, un terrain de rencontre, à l'écart des hostilités entre le latin ecclésiastique et l'arabe coranique, tel fut le magnifique projet, laïque avant la lettre, d'un roi aussi sage que savant. Il projetait par ailleurs de faire construire à Murcie une médersa commune aux trois religions, qui oserait aujourd'hui concevoir pareille maison d'études. 1492, fin de la dite reconquête. Découverte de l'Amérique, date glorieuse, date fatidique. Et nous pleurions de douceur parce que l'Espagne était enfin l'Espagne, s'écrit le maître de Santiago dans la pièce de Monterland. Quelle Espagne ? Celle où il fallait prouver sa limpieza de sangre, pureté du sang que l'histoire s'était chargée de mêler ? Celle où les inquisiteurs comptaient du haut des tours les cheminées qui ne fumaient pas les jours de sabbat, et où l'on repérait les faux convertis à l'amour des livres, aux lampes à huile allumées la nuit, celle où l'on emprisonna frère Louis de Léon, Saint Jean de la Croix, lequel voulut détruire ses manuscrits et en avala certains. Non, laissons là ces noirs souvenirs et revenons aux traces du long passé partagé, à la richesse d'une double ou triple appartenance. Du plus commun, le plat national, le cocido, pot-au-feu des Juifs auxquels les chrétiens ajoutèrent du porc. Au plus utile, les canaux d'irrigation des huertas de Valence et Murcie, à l'inutile et délicieux bruit de l'eau dans les patios. Des solides chefs-d'œuvre de l'architecture mudéjar à la Célestine, chef-d'œuvre inclassable, qui accoucha du théâtre et du roman espagnol comme de jumeaux, et qui, à travers un personnage de tradition arabe, l'entremetteuse, porte le sceau juif d'un monde sans providence. Au Don Quichotte, que Cervantes prétend traduit de l'arabe, d'un certain Sidamete Benengeli. 1492, fin d'une harmonie très atténuée, prise en son étymologie d'assemblage, fin de cet assemblage, arrachement. Fallait-il que le sentiment d'appartenance à autre chose que la religion fut fort, pour que les Juifs chassés d'Espagne aient pris en se dispersant de par le monde et conservé le nom de Sephardim, c'est-à-dire espagnol, répandant la langue et la culture de Sepharad, nom hébreu de l'Espagne. Le romancero judéo-espagnol, sur lequel Paul Benichou s'est penché avec autant de tendresse que sur Nerval et la chanson folklorique, conserve vive et vivante la grande nostalgie de l'accord. Tout le romancero, patrimoine poétique du peuple espagnol, né au temps de la convivance, réussit le miracle de faire vivre ensemble, en octosyllabes assonancées, notre passé commun, la guerre de Troie et l'incendie de Rome, les prouesses de Charlemagne et du Cid, de Lancelot et de Tristan, les victoires et les défaites, l'amour des villes, comme l'amour des femmes et la douleur de l'équité. Je songe à ces documents poétiques que sont les romancesses de la frontière entre Maures et chrétiens, au chagrin du roi mort apprenant qu'il a perdu sa ville d'Alama, où revient en lancinant couplet ce soupir « Ay de mi Alama », à l'extraordinaire échange au bord du Guadalquivir entre Abenamar, fils d'un musulman et d'une captive chrétienne, et le roi Don Juan, qui le presse de questions sur la pure merveille qu'il aperçoit là-bas, Grenade, Granada. Les réponses d'Abenamar, c'est la Lambra, Seigneur, là, c'est la mosquée, là, le généralife, là, les tours vermeilles, attisent le désir du roi. Le voilà épris, le voilà qui se déclare à la ville. Écoutez bien ce qu'il a dit et ce qu'elle a répondu. Si tu le voulais, Grenade, avec toi je me marierai. Je te donnerai en art Cordoue et aussi Séville. Je suis mariée, roi Don Juan. Je suis mariée, non point veuve. Le mort auquel j'appartiens m'aime et il me veut grand bien. Grenade fut donc la dernière à se rendre. Après des mois de négociations, le 2 janvier 1492, le roi Boabdil remit au roi Ferdinand les clés de la ville et demanda qui aurait en garde l'Alhambra. Un gentilhomme s'avança. Boabdil ôta alors de son doigt un anneau serti d'une turquoise sur lequel était gravé en arabe « Il n'y a de Dieu que Dieu » et le lui tendit en disant « Tous ceux qui ont gouverné Grenade depuis la conquête ont porté cette bague. Portez-la puisque vous allez gouverner et que Dieu vous rende plus heureux que moi. » Qu'on veuille bien me pardonner de conclure ce moment consacré à l'harmonie sur l'émotion qui envahit lorsque l'espoir de vivre ensemble s'est perdu.
Merci, Madame Florence Delay. Avant de lever la séance, nous entendrons encore une fois Sœur Marie Kérouz et ses musiciens. Je vous adresse, chère Sœur Marie Kérouz, et en notre nom à tous, nos remerciements pour le concours harmonieux que vous avez apporté à cette séance solennelle de rentrée. Nous écoutons les Béatitudes de Saint Matthieu.
Dil يقومون وللأتقياء وللأنقياء فربنا يعينهم طوبى لهم طوبى لهم طوبى لهم طوبى لهم طوبى للحزان اليائسين فإن سوف يعزون والساعين للسلم المبين بنينا الإله يدعون طوبى لهم
C'était donc la retransmission de la séance solennelle de rentrée des cinq académies qui composent l'Institut de France. Séance solennelle en public sous la coupole de l'Institut de France, Quai de Conti à Paris, le mardi 26 octobre 2004 à 15h. Se sont exprimés, vous avez pu les entendre sur cette antenne, respectivement Marianne Bastide-Bruguière, déléguée de l'Académie des sciences morales et politiques, François-Bernard Mache, délégué de l'Académie des beaux-arts, Madame Dominique Meyer, déléguée de l'Académie des sciences, Jean-François Jarige, délégué de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, enfin Madame Florence Delay, déléguée de l'Académie française. Tous s'exprimaient sur le même thème, harmonie. Je vous rappelle que cette séance solennelle de rentrée, vous pouvez en retrouver les traductions de textes sur le site internet de l'Institut de France, www.institut-de-france.fr, le tout en minuscule. Je vous rappelle donc cette adresse en minuscule, www.institut-de-france.fr. Vous pouvez retrouver tout au long de cette semaine également la rediffusion en simultané de cette séance solennelle de rentrée qui, je vous le rappelle, avait lieu le mardi 26 octobre sous la coupole. La suite de votre programme sur Canal Académie, la première radio académique francophone, dans un instant.
Vous écoutez Canal Académie.